Depuis les studios de Radio Galaxie, c'est l'heure de votre nouvelle émission du GIESS présentée par son président Sylvain Martin. Bonjour Sylvain.
Bonjour Francis.
Avant de nous parler de tes invités, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le GIESS ?
Oui, rapidement, et puis maintenant les auditeurs sont fidèles, donc ils ont le temps et ils ont appris par cœur la présentation, ils vont même venir la faire à ma place.
Ça serait pas mal.
Ça serait pas mal. Le GIESS, je dis toujours, c'est deux jambes pour bien marcher équilibré, une jambe qui est en faveur du développement économique territorial. Donc on mène des actions comme le forum de l'emploi, comme des concours à la création d'entreprises, en se disant que si le territoire se développe, alors nos entreprises se développent aussi. Et la deuxième jambe, c'est effectivement fédérer les entrepreneurs de ce territoire, créer des liens, créer du réseau. Et c'est notamment pour ça qu'on a créé cette émission de radio avec toi, avec Radio Galaxie, que je remercie encore une fois. Mais aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière parce qu'on n'a pas un adhérent du GIESS qui vient présenter son activité. Mais je crois que je l'avais dit aux auditeurs, le GIESS étant reconnu d'intérêt général, c'est important aussi de montrer des actions citoyennes pour ça. Et je fais le lien parce qu'on reçoit aujourd'hui trois personnes de la fondation Toulouse Cancer Santé. On va mettre les dames à l'honneur d'abord, vous me permettrez, professeur. Sandrine Poirot, qui est chercheure et qui a un projet qui est financé actuellement. Alexandra Pain, qui travaille à la Fondation pour tout l'événementiel. Et donc François Amalric, professeur émérite et à l'origine de cette fondation, pour faire le lien et en raconter un peu l'histoire.
Bonjour, je tiens à vous remercier donc de m'avoir invité aujourd'hui, de me donner l'occasion de parler de deux choses. L'Oncopole de Toulouse, qui est une réalisation récente puisqu'elle va avoir 5 ans en avril de l'année prochaine, et la Fondation Toulouse Cancer qui est là, qui vient en appui des recherches effectuées sur le site de l'Oncopole. Donc, juste pour rectifier, je n'étais pas à l'origine de la fondation, même si à l'époque j'étais dans le domaine du cancer, puisque j'étais directeur de la recherche à l'Institut National du Cancer. Donc, avec Philippe Douste-Blazy, qui était à l'époque au ministère de la Santé, donc j'étais à l'origine de la création de l'Oncopole et donc aussi de la création de la fondation.
Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'Oncopole ?
Alors, l'Oncopole... Ben, c'est suite à la catastrophe d'AZF. Le maire de Toulouse de l'époque, qui était Philippe Douste-Blazy, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire sur ce site ? Donc le premier projet, ça a été de faire une cité des biotechnologies, puisque c'était la grande explosion, l'explosion d'AZF, explosion des connaissances en biologie, donc et développement des biotechnologies, début des années 2000. Et puis est apparu le plan cancer du président Chirac, et donc immédiatement Douste-Blazy, qui est devenu à l'époque ministre de la Santé, a eu l'idée de transformer la cité des biotechnologies en un grand centre de recherche contre le cancer.
D'accord.
Et pour cela, donc, il a réuni, d'abord, il a réussi à mobiliser 300 millions d'euros pour la création de ce centre. Et ensuite, l'idée a été de regrouper sur ce site la plus grande partie de recherche et soins cancer Toulouse, donc qui comprend le centre, l'ICR, l'Institut du cancer Claudius Regaud, donc et de droit privé, qui était situé au centre-ville dans des locaux qui commençaient à devenir exigus pour les besoins des soins et de la recherche. Et de jumeler avec ce centre, donc Claudius Regaud, des services du CHU, et notamment tout ce qui est hématologie, qui est un des gros morceaux donc, de recherche de soins à Toulouse sur le site de l'Oncopole.
D'accord, très bien.
Donc, comme je vous l'ai dit au début, ce centre a vu le jour en 2014. Bon, l'idée est partie de 2004, donc il a fallu 10 ans pour le réaliser. Ça, en termes d'investissement, ça frôle 1 milliard, globalement, le coût global. Et aujourd'hui, sur ce centre, et certainement avec Villejuif, le meilleur centre français de lutte contre le cancer et de recherche contre le cancer. D'accord. Et tout à l'heure, je reviendrai sur l'importance de la recherche pour avoir des soins de qualité.
Alors, importance de la recherche, importance de la fondation. Est-ce qu'on peut décrire rapidement son rôle, son fonctionnement ?
Alors la fondation a été créée en 2007, je pense, ou 2008, et ça a été suite à la création des fondations pour la recherche créées dans le cadre de l'autonomie des universités. Le politique, à ce moment-là, a donné l'autonomie des universités, a eu l'idée de créer des fondations de recherche, et les universités, grâce à ces fondations de recherche, lèveraient des fonds pour avoir un fonctionnement pérenne des universités indépendantes. Mmh. De facto, malheureusement, seul un très petit nombre en France ont pu tirer leur épingle du jeu et sont actuellement efficaces dans ce système de fonctionnement. Donc la Fondation Toulouse Cancer Santé a bénéficié de cette loi et donc c'est une fondation qui est d'intérêt général. Et donc son but est de financer la recherche sur le cancer, donc au départ en France. Et depuis que l'Oncopole a été créé, se consacre à ses moyens au développement de l'Oncopole.
Alors, pourquoi donner plus à la Fondation qu'à une autre association ? Même si je n'aime pas bien opposer les choses, parce que tout est une bonne action. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'apporte un don à la Fondation ?
Ben, la Fondation Toulouse Cancer Santé a beaucoup d'avantages par rapport aux autres fondations du domaine, hein, donc la Ligue, l'ARC notamment. Pourquoi elle a beaucoup d'avantages ? Tout d'abord, il y a la proximité. Alors, que veut dire la proximité ? Je vous ai dit tout à l'heure, pour être soigné au plus haut niveau à l'heure actuelle, dans des centres, il faut qu'on ait de la très bonne recherche derrière, qui soit directement associée. Pourquoi cela ? C'est parce que vous entendez tous parler des nouveaux médicaments, de nouvelles avancées dans le domaine du cancer. Et donc, il y a des nouveaux médicaments qui sortent, mais qui sont testés sur des malades. Okay ? Mmh. C'est bien sûr malades volontaires. Et pour cela, pour attirer ces nouveaux médicaments, il faut absolument qu'il y ait un support recherche fort associé donc à la clinique. Et les grosses entreprises de pharmacie donnent ces médicaments à tester dans ces grands centres. Donc si vous n'avez pas de recherche de qualité, vous n'aurez pas les nouveaux médicaments à disposition. Donc vous serez obligé d'aller vous faire soigner à Villejuif ou dans d'autres centres européens. Donc voilà pourquoi la recherche, c'est essentiel que la recherche soit associée. Et dans le domaine de l'Oncopole, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a d'abord 260 lits ou 280 lits d'hospitalisation. Et derrière, vous avez le centre de recherche qui s'appelle le CRCT, qui est un centre INSERM où il y a actuellement 400 chercheurs, d'accord, avec des passerelles entre clinique et recherche. Donc c'est la grande force de l'Oncopole de Toulouse qui en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des meilleurs centres français et européens en recherche contre le cancer et en soins.
Parce qu'on réunit les différents acteurs en un même lieu.
D'accord. Exactement. Okay. Donc, voilà, le gros avantage d'avoir une fondation locale, c'est qu'on peut savoir quels sont les projets qu'il faut pousser, on a besoin de l'argent où, et donc on peut définir des appels à projets, on le fait une fois par an. Actuellement, nous sommes en train de définir l'appel à projets de 2020-2022, puisqu'on finance les projets sur 2 ou 3 ans, enfin c'est un minimum de 2 ans. Donc on définit un appel à projet en fonction des besoins et des compétences et des qualités du milieu scientifique et clinique de Toulouse.
De Toulouse.
Donc on a des appels à projets, donc fléchés.
Fléchés.
Donc c'est la première chose. On ne fait pas de l'autodistribution. Absolument pas. Ça veut dire, bien sûr, l'argent reste à Toulouse, mais c'est un conseil scientifique international où il n'y a aucun Toulousain qui décide des projets à financer. D'accord. L'année dernière, il y avait 12 projets, on en a financé 4. Et bien sûr, le conseil d'administration de la fondation qui décide in fine de l'attribution a parfaitement suivi le classement établi par ce conseil scientifique international.
Donc traçable et transparent.
Traçable. Et traçable d'autant plus que les projets financés sont sur un site internet qui s'appelle l'Arbre des donateurs, où les projets donc sont présentés pour le grand public. Il y a d'abord la photo du porteur de projet.
C'est important.
Donc ensuite, ensuite on a un résumé grand public et ensuite un résumé scientifique plus sérieux pour les personnes qui comprennent parfaitement donc le projet.
Le projet. D'accord.
Et Sandrine tout à l'heure pourra vous exposer
On va lui donner la parole bientôt.
L'arbre des donateurs vous permet d'avoir la traçabilité. Vous savez à qui vous donnez votre argent. Vous pouvez suivre la progression des projets, puisque toutes les publications, au fur et à mesure qu'elles sortent, apparaissent sur l'arbre des donateurs, les brevets aussi. Donc, ce qui est ça, pour nous, c'est essentiel. Okay, donc la personne qui donne sait à qui il donne et sait comment ça marche. D'autant plus que nos chercheurs à qui nous donnent de l'argent, nous les sollicitons. Mmh. Et Sandrine est là, donc elle a été sollicitée pour venir.
Pour venir.
Mais aussi elle donne des conférences grand public chaque fois que c'est demandé. Des associations demandent des conférences grand public.
Parce qu'on va le dire à nos auditeurs, on met en avant la fondation, la recherche. Cette émission, c'est l'occasion de décrire ces actions traçables et transparentes, ces projets. La finalité de l'émission, mon cher Francis, c'est de faire un appel aux dons, d'accord ? Que les gens du Volvestre, du Comminges, du Savès, de tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture, à la maison, les entrepreneurs du territoire, puissent soutenir ces projets-là. Je vais le dire, et malheureusement, parce qu'il n'y a pas une famille française et il n'y a pas une famille dans le monde que cette cause-là ne concerne pas. Et je suis assez sensible à cette notion aussi d'entrepreneuriat et la manière dont vous fonctionnez avec les appels à projets, la manière dont vous les financez. Juste avant de donner la parole à Sandrine pour présenter son projet, d'où viennent les ressources et est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ?
Donc juste avant d'aborder, ce problème des moyens, je voudrais rajouter quand même deux ou trois choses importantes pour dire pourquoi donner à la Fondation. 100% des dons vont à la recherche parce que nous sommes une structure extrêmement légère, c'est-à-dire que nous sommes 5 à l'heure actuelle et l'ensemble des salaires est payé par les intérêts de la somme de départ de création de la Fondation qui était quand même de 23 millions, donc il y avait quand même beaucoup d'argent. Donc une grande partie de cet argent est placée et permet de payer les salaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 1 euro donné est 1 euro qui va à la recherche. Il n'y a pas de déperdition pour des structures administratives et autres.
Les coûts fixes sont financés.
Voilà, exactement. Et ensuite, il y a la réactivité et la rapidité. Vous voyez, là, cette année, donc, l'appel à projet va se faire février, mars au plus tard. Les projets seront déposés en avril par les chercheurs, 15 mai au plus tard. Le 25 juin, donc, le jury va se réunir. Parce que le 25 juin, pourquoi ? Parce que le 30 juin ou le 29, j'ai mon conseil d'administration qui va valider le classement. Et les chercheurs ont l'argent le 1er septembre. C'est-à-dire qu'en 4 mois, entre le moment où on écrit le projet et le moment où l'argent est dans la caisse des chercheurs, il y a 4 mois, alors que sur les appels nationaux, c'est minimum 1 an, et pour l'ANR, qui est l'agence nationale, c'est plutôt 1 an et demi à 2 ans. Donc vous voyez, on a une rapidité d'exécution qui est assez remarquable et que nous sommes les seuls à avoir.
D'accord, très bien.
Je le confirme.
Donc, est-ce que nous avons assez d'argent ? Alors d'abord, d'où viennent nos ressources ? Bon, l'année dernière, nous avons levé 700 000 euros, donc, qui ont été distribués donc, aux différents projets de recherche. 700 000 euros, moitié du grand public, moitié des entreprises.
D'accord, ok.
Donc, ça a été moitié-moitié. Mais depuis 3 ans où on peut lever de l'argent, depuis qu'on peut montrer ce qu'est l'Oncopole, globalement, ça a toujours été la balance moitié-moitié. Voilà. Est-ce que 700 000 euros, c'est suffisant ? Ben, bien sûr, ça permet de faire des opérations. Mais je pense, je l'ai déjà dit en d'autres lieux, si nous avions 2 millions d'euros par an, on serait très très bien. Parce que cet argent va aux appels à projets, mais cet argent va aussi à attirer à Toulouse de nouveaux talents dans des secteurs où on manque de compétences. Nous venons de recruter, ça nous avons fait une opération avec Pierre Fabre, qui nous avons mis 1 million chacun sur 5 ans, Donc ça va nous coûter 200 000 euros par an pour faire venir Vera Pancalli, qui est une chercheuse reconnue au niveau international, pour analyser les big data. Big data, c'est très à la mode. Donc c'est le grand nombre de données venant soit de la clinique des patients, soit de l'analyse biologique des patients, comme analyse de sang, n'en parlons pas, mais séquençage de l'ADN, enfin, toutes les données issues des big data. Et Vera Pancalli mène un réseau européen dans ce domaine. Donc, vous voyez, on a fait venir, donc, je pense qu'elle est espagnole, une espagnole qui est arrivée, enfin, elle était à Barcelone en tout cas, mais avec un nom italien. Italien ou espagnol, en fait, ce n'est pas important.
Multiculturalisme.
Mais, voilà. Mais l'important, c'est de l'avoir attirée de Barcelone, où elle avait quand même un super laboratoire, avec 20 personnes sous ses ordres, et un réseau, responsable d'un réseau européen, qui est venu s'installer à Toulouse à partir du 1er septembre.
OK. Donc, 2 millions. Pas parce que c'est juste un objectif pour plus de confort, c'est parce qu'il y a besoin de les dépenser sur des actions que vous avez déjà ciblées et déjà répertoriées.
Exactement, exactement. Et pour l'attractivité, nous avions aussi, parce que lorsqu'on a fait l'appel à projet pour l'appel d'offres pour un responsable des big data à Toulouse, on a eu plusieurs candidatures, elle n'a pas été la seule. Et réellement, la numéro 2, nous voulions la garder aussi. Moi j'étais prêt avec la fondation, on était prêt à y aller, à mettre, mais on n'a pas été assez réactif le temps de que Vera Pancalli soit... Et donc elle a eu un grand fonds européen et elle est allée s'installer ailleurs. Et là je crois que là j'ai eu tort, j'aurais dû y aller direct en disant il y en a deux de bons, on prend les deux.
Dans l'entrepreneuriat, je dis toujours, une erreur c'est juste une deuxième occasion de bien faire les choses, donc elle sera rattrapée après. Ça me permet de faire le lien avec Sandrine. Merci d'être venue à ce micro. C'est merci l'illustration de ce que porte la Fondation. Alors, en quelques mots déjà, quel est le thème de votre projet financé par la Fondation ?
Bien, le projet financé par la Fondation porte sur le développement d'une nouvelle molécule qui a été découverte dans mon équipe au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, donc le CRCT, qui est adossé à qui est dans l'Oncopole. Et donc, cette molécule, nous l'avons appelée d'androgénine A. Et donc, ce projet va financer son développement pour soigner les cancers du sein par immunothérapie.
Alors, immunothérapie, pour nos auditeurs.
Alors, l'immunothérapie, en fait, c'est des nouveaux traitements qui apparaissent pour traiter le cancer et qui consiste donc à activer le système immunitaire contre la tumeur.
D'accord.
Donc okay. Actuellement...
On augmente les défenses pour pas que la tumeur rentre.
En fait, la tumeur va développer tous les moyens possibles pour inhiber le système immunitaire, pour le rendre complètement inoffensif. Pas que le système immunitaire puisse la voir, la détecter et l'éliminer. Et justement, les immunothérapies visent à justement rendre le système immunitaire fort pour pouvoir lutter contre la tumeur. Donc, les immunothérapies qui sont actuellement développées en clinique présentent une très bonne efficacité. On a des résultats vraiment spectaculaires, mais pour certains cancers, donc comme le cancer de la peau ou du poumon. Mais malheureusement, pour le cancer du sein, on a une efficacité qui est beaucoup moindre et sur un nombre limité de patients. Ce qui veut dire que, en fait, c'est quand même porteur d'espoir, puisque ce qu'on peut comprendre par ces résultats, c'est que le système immunitaire est essentiel pour lutter contre le cancer. Donc ça, c'est nouveau, c'est des nouveaux concepts. Mais qu'en fait, pour le cancer du sein, il faut développer des immunothérapies différentes de celles qui sont proposées en clinique et donc pour avoir une meilleure efficacité. Nous, dans ce contexte, en fait, dans notre équipe, nous travaillons sur le rôle du cholestérol dans le tissu du sein normal comparé au tissu tumoral, donc au cancer. D'accord. Et ce que nous avons pu découvrir, nous avons pu découvrir un dérivé du cholestérol, donc la dendrogénine A, qui est produit dans le corps, donc c'est un dérivé naturel, d'accord, qui est très efficace contre différents cancers, et en particulier les cancers du sein qui sont très agressifs, pour lesquels on n'a pas encore de bonnes solutions thérapeutiques, on a des échappements. Et donc cette molécule ouvre vraiment des perspectives très importantes, puisqu'elle agit différemment des immunothérapies qui sont actuellement proposées en clinique. En plus d'activer le système immunitaire, en fait, elle va agir sur la tumeur, elle va la modifier pour que la tumeur libère des signaux que le système immunitaire va capter. Et donc, la tumeur va devenir reconnaissable par le système immunitaire qui va pouvoir l'éliminer de façon spécifique sans toucher le tissu normal.
D'accord, je comprends bien. Merci de rendre le sujet pédagogique parce que c'est pas évident. L'exercice que vous faites à ce micro n'est pas évident et vous le faites très bien. On voit bien de quoi il s'agit. En quoi l'apport de la Fondation a été fondamental ?
Eh bien, grâce au soutien de la Fondation, nous avons fait vraiment des avancées majeures et rapides, puisque nous avons été financés vraiment en quelques mois. Donc ça, c'est important. On trouve quelque chose, on rebondit très vite, on peut avancer très vite. Et ça, c'est essentiel. François l'a dit tout à l'heure, mais c'est ce que je disais, je le confirme, parce que c'est vraiment très, très important. Quand on doit attendre 1 an, 2 ans, enfin, c'est pas possible d'attendre ça pour le cancer. Il faut aller vite. C'est une maladie, il faut aller plus vite que le cancer. Et ça, c'est essentiel. Et donc, en fait, cet apport a été vraiment majeur parce que nous avons pu faire des avancées incroyables sur la compréhension du mode d'action de cette molécule, puisqu'elle est différente des immunothérapies. Donc, il est important de comprendre pourquoi elle avait cette efficacité, comment elle fonctionnait.
Ça, c'est les premiers résultats que vous avez obtenus.
Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu et ce qui nous permet d'envisager qu'on puisse amener cette molécule en clinique pour traiter le cancer du sein. Les résultats obtenus, en fait, ont été que nous avons découvert la cible de cette molécule. C'est-à-dire que maintenant, nous avons identifié la cible au niveau du système immunitaire, mais aussi au niveau de la tumeur, qui va permettre à cette molécule d'avoir cette double action et justement d'être très efficace pour éliminer la tumeur.
D'accord. Comment ça se traduit en termes de bénéfices pour les patients ?
Eh bien, grâce à la cible, nous allons pouvoir identifier les patients qui vont répondre à cette molécule.
D'accord.
Parce qu'ils auront cette cible au niveau de leurs cellules tumorales, au niveau des cellules du système immunitaire. Et c'est un peu un jeu, je dirais, pour expliquer la cible, serrure et clé. Donc la dendrogénine A serait la clé et la serrure serait cette cible. Il faut que la molécule agisse sur une cible pour pouvoir avoir son efficacité maximale. Et si la cible n'est pas là, le patient ne va pas répondre.
D'accord. Bravo pour tout ça. La suite, c'est quoi ? La suite du projet, là ?
Eh bien, la suite, là, grâce au soutien de la Fondation Toulouse Cancer Santé, et puis en association avec les cliniciens de l'Oncopole, travaillons pour pouvoir amener cette molécule en clinique pour l'immunothérapie des cancers du sein. Et cette molécule a vraiment différents avantages puisque c'est un nouveau type de traitement. C'est en fait une immunothérapie naturelle puisqu'on la découvre dans le corps humain.
Beaucoup moins toxique.
Donc beaucoup moins toxique qu'on peut produire par synthèse chimique quand même.
D'accord.
Donc ça veut dire des frais de fabrication qui sont modestes, je dirais, comparé aux immunothérapies qui sont actuellement proposées, dont le coût est vraiment très, très important des fois limite pour certains patients. Enfin, ce n'est pas accessible à tout le monde et c'est vraiment un problème, je pense.
Okay.
Et donc là, on pourrait proposer, je ne dis pas remplacer, parce que les immunothérapies actuelles sont vraiment des résultats pour certains patients ou cancers très, très spectaculaires, mais ça sera un complément, ça sera quelque chose qui pourra vraiment apporter quelque chose. Et aussi au niveau conceptuel, au niveau de la recherche, je dirais fondamentale, parce que là, on ouvre des pistes. La cible n'était pas connue. Donc, on ouvre vraiment des pans de recherche. J'espère que d'autres pourront travailler dessus pour avancer plus vite.
On a été à l'étape de la recherche. La fondation, l'argent permet de faire les tests, mise en application.
Oui, tout à fait. De payer aussi des jeunes chercheurs qui travaillent. Et ça, c'est très important aussi, parce que pour les jeunes chercheurs... Enfin, il faut pouvoir les payer, pouvoir les motiver, il faut pouvoir avoir de l'argent pour le fonctionnement, bien sûr, pour les recherches, mais aussi pour ces jeunes chercheurs en attente quand même.
On le disait avec François quand on s'est vu à l'Oncopole, avoir de l'argent, ce n'est pas juste financer les factures d'électricité et l'achat d'ordinateurs. Travail des gens se paye, la qualité de recherche.
Voilà aussi, attirer des talents, comme disait François aussi, des personnes, par exemple, sur l'immunothérapie. Il faut des gens qui soient formés à l'immunologie. Et c'est souvent des gens qui n'étaient pas dans le cancer. Il faut arriver à les amener dans notre domaine. C'est pas évident.
Avec un objectif derrière de passer en production à...
Oui, tout à fait, bien
d'accord.
sûr. Oui, oui.
Donc on parle de quoi ? On dit que le but est de créer des start-up derrière, c'est ça ?
Oui, il y a une start-up qui est créée déjà.
Il y a une start-up créée ?
Oui, qui justement s'intéresse, qui aide au développement de cette molécule. Et j'espère avoir aussi des fonds par la fondation pour pouvoir faire un levier. Parce que pour amener une molécule en clinique, il faut quand même des moyens conséquents. Pour arriver à... Enfin, il y a beaucoup d'étapes, et notamment tout ce qui est législatif. Enfin, il faut vraiment les études de toxicité dans certaines conditions, etc. Enfin, qui nécessitent énormément d'argent. Et je pense que la limitation est là. C'est dommage. On a des produits, on a des molécules, et on est bloqué parce que certaines étapes qui sont coûteuses, on ne nous les finance pas. Au niveau, par exemple, de nos institutions publiques, ce type de frais n'est pas subventionné du tout par aucun organisme. Alors je pense que si la fondation est sensible à ce genre de choses et peut financer ce type, parce qu'il y a un gap et c'est vraiment un problème. Un problème parce qu'il faut arriver à pouvoir amener nos recherches à la clinique.
À terme. C'est ce qui m'avait marqué, alors je vais le dire avec mes mots d'entrepreneur, mais c'est être vraiment sur cette chaîne de la recherche de A à Z, donner des moyens, identifier, chercher, trouver, mais aussi que ça permette concrètement demain de soigner et pas juste rester au stade de la découverte. Hein. Je le dis encore une fois avec mes mots, mais François, c'est ce qui était sorti de notre entretien.
Non, tout à fait. Le but de l'opération Oncopole à Toulouse, c'est justement de mettre ensemble recherche clinique. Donc, on arrive jusqu'au stade de dire on pourrait passer chez le patient. Et alors là, on en arrive à ce qui vient d'être dit. C'est comment finance-t-on toutes les études de toxicologie notamment, d'efficacité, enfin les phases cliniques, phase 1, phase 2. Donc comment arrive-t-on à financer ce genre d'études ? Ce n'est plus de la recherche, c'est de l'application de la recherche.
C'est ça.
Donc il y a deux solutions. Soit on trouve des fonds d'investissement qui veulent bien investir dans la start-up qu'on vient de monter. Donc ça, c'est la première des choses. Mais très rapidement, malheureusement, ça risque d'échapper et puis ça part dans une big pharma aux États-Unis ou en Allemagne ou au Japon, enfin ailleurs dans le monde. Et malheureusement, c'est ce qui se passe beaucoup dans nos domaines, puisque en termes de grandes entreprises de pharmacie qui sont prêtes à se lancer là-dedans, on en a une locale, Pierre Fabre, mais enfin qui est en compétition à ce moment-là au moment d'investir. Ils vont être en compétition avec les big pharma. On n'a plus que Sanofi en France. Et là, qui ont 10 fois plus de moyens que Pierre Fabre. Donc, c'est un vrai problème de moyens. Admettons que ce soit des molécules qui soient réellement, et je l'espère, qui vont être un médicament extraordinaire pour soigner le cancer. La probabilité que ça puisse rester en France est extrêmement faible parce que nous n'avons pas les relais financiers. Il n'y a pas les masses financières qui vont pouvoir s'investir à un instant donné sur le sujet.
Donc, il faut des moyens pour transformer l'essai, transformer la recherche et mettre en application.
Au moins, amener la molécule le plus loin possible. Quand on se fait racheter, là, il y a un gros paquet d'argent. Si on vous achète tout à fait au départ, vous avez très peu. On vous paie très peu.
Clairement.
Oui, et puis en plus, ça revient aux institutions.
Plus, c'est les institutions nationales qui vous prennent, qui n'ont pas fait grand-chose souvent pour valoriser le produit que vous avez.
Bon.
Pour ne pas dire plus mal.
Alors, rappelons sur les dons. On va faire un petit passage fiscal. Bon, déjà, j'aime à rappeler que quand on donne, on donne parce que c'est un engagement. Et l'économie fiscale, c'est la cerise sur le gâteau. Et tant mieux qu'elle soit là pour aider. Mais là, vraiment, c'est des projets qui ont du sens, qu'on peut suivre, qui sont traçables, qui sont transparents. Donc, on incite encore une fois tous les gens qui le peuvent à donner. Il n'y a pas de petits dons. On en avait parlé aussi quand on s'était vu en préparation de cette émission. Quand vous donnez à titre particulier, vous avez 60% d'économie d'impôt à défalquer directement directement en réduction d'impôts. Quand vous donnez au titre d'une entreprise, c'est 60% dans la limite de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est aussi des actions qui donnent du sens. Beaucoup, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont en recherche d'une stratégie dite RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut tout à fait inscrire dans sa stratégie d'entreprise. Donc on refait cet appel aux dons. Comment on fait pour donner ?
Alors pour donner, vous avez deux sites internet. Vous avez d'abord le site institutionnel sur lequel vous pouvez faire un don, toulousecancer.fr. Vous avez ensuite le site internet dédié au projet soutenu par la fondation qui s'appelle l'Arbre des donateurs, arbredesdonateurs.fr. Voilà, c'est très simple. J'invite également les auditeurs à nous suivre sur la page Facebook, Fondation Toulouse Cancer Santé.
Alors on va faire mieux que la suite. Ils vont la suivre. Ils vont cliquer sur « J'aime » et après, ils vont cliquer sur le bouton « Partager » pour la partager à tous leurs contacts.
Exactement. Voilà, parce qu'on a besoin de tout le monde. Vous le disiez au début de l'émission, on est tous, de près ou de loin, concernés par cette maladie. Et donc, on a besoin de toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient. On a également un fil Twitter, Toulouse Cancer. Voilà, donc on diffuse beaucoup d'actualités. Voilà, il est possible de nous suivre.
Toute cette actualité, de toute façon, on la relayera sur le site du GEST, donc legest.fr. Il y aura aussi toutes les infos très très vite pour pouvoir donner. On a d'autres projets ensemble, on fera certainement une soirée caritative, on va voir comment organiser tout ça. Sandrine, François, quelque chose à rajouter pour nos auditeurs, une précision qu'on n'aurait pas donnée ?
Ben, pour moi, je dirais que, puisque je travaille sur le cancer du sein, c'est la première cause de décès par cancer chez la femme. Ouais. En France.
Ça, c'est terrible d'ailleurs, parce qu'on a dans l'imaginaire, je vais l'appeler comme ça, collectif.
Il faut trouver de nouvelles solutions.
Et oui, que le cancer du sein est quelque chose qui se soigne bien, mais vous dites que c'est la première cause de décès.
C'est vrai que ça se soigne bien. Enfin, il y a des cancers qui se soignent bien. Mm-hmm. Évidemment, ben, le dépistage est très, très important. Et j'incite toutes les personnes à faire du dépistage, parce que si le cancer est détecté de façon précoce, il y aura plus de chances de le soigner. Mais malheureusement, il y a beaucoup de récidives et puis il y a beaucoup de nouveaux cas par an. Donc on ne s'explique pas, il y a une incidence qui augmente et donc il est vraiment important de trouver de nouveaux traitements. Et c'est les cliniciens qui nous le demandent.
Hein. Est-ce qu'on peut profiter de cette antenne pour donner quelques conseils préventifs pour prévenir ce cancer du sein?
Oui, tout à fait. Ben, donc, c'est le dépistage, les mammographies, soi-même se faire des palpations.
À partir de quel âge?
Bon, c'est généralement après 30 ans.
D'accord.
Hein. Bon, à part si on a des cas dans sa famille de cancer du sein.
Il vaut mieux le faire plus tôt.
Oui. D'accord. Même si c'est une tante, même si c'est une cousine, même si c'est quelqu'un qui paraît éloigné, mais il faut en parler à son médecin et voir avec lui ce qui est la meilleure chose à faire, le meilleur suivi à avoir. Mais ça, c'est essentiel, vraiment. Et c'est vrai qu'on a personne n'a envie d'aller chez son médecin ou faire du dépistage. Et personne n'a envie. Moi-même, je me force pour le faire. Non, mais c'est vrai, on n'aime pas ça, mais il faut vous dire que c'est important. Voilà.
Très bien.
Sur ce plan-là, je peux rajouter quelque chose.
Mais
parce
avec plaisir.
Que tous les matins, en partant à l'entrée des écoles, je vois des jeunes filles de 15, 16 ans, peut-être 14 ans, qui sont en train de fumer. Et ça, je pense que c'est un désastre pour l'augmentation du cancer du sein chez la femme.
Ouais, et pour tout.
Oui, un conseil, c'est le surpoids, éviter, faire du sport. Le sport, c'est vraiment essentiel. On se rend compte, enfin, il y a des mécanismes liés au sport, c'est pas juste une vue de l'esprit. Donc c'est vrai que ça évite d'avoir du stress, mais pas que, et ça c'est vraiment essentiel. Donc ce qu'on dit, marcher, courir, enfin, prendre du plaisir aussi.
Une alimentation saine.
Une alimentation saine. Alors pas de contraintes, il faut que ce soit fait quand même dans un...
Mais tout ça, c'est
pas des contraintes. On peut manger des mauvaises choses de temps en temps. Enfin, je veux dire, il faut...
Aller faire un footing toutes les semaines, un peu de vélo. Vous aurez le droit à un burger de temps en temps.
Voilà, exactement. C'est-à-dire
et
savoir...
éviter la cigarette.
Moi, je dis que tout est dans l'équilibre. Savoir équilibrer les choses. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Merci de cette cause soutenue. Merci, on va dire comment, c'est pas merci de la populariser, mais en tout cas, merci de donner l'occasion au grand public de faire un peu de pédagogie et à tous nos auditeurs, donner. On a besoin de sous et cet objectif de 2 millions, il faut l'atteindre. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vos auditeurs.